Franz Alua. Tegi Mfatrore. Musique du monde sur RFI.
Bienvenue dans les musiques du monde avec une thématique mexicaine, bien que nos invités soient le musicien argentin Ignacio María Gómez et l'artiste franco-vénézuélienne La Chica. Le Mexique, eh ben, ils y ont séjourné tous les deux. Ignacio y a découvert la musique traditionnelle guinéenne, ça ne s'invente pas. Et La Chica, parce que son frère Pablo est mort là-bas l'été dernier. Un autre pays pourrait réunir ces deux-là, c'est l'intuition. Premier de cordée, Ignacio María Gómez pour la sortie de l'album Belesia. Et puis ce sera le tour de La Chica et de son nouveau projet, La Loba, la Louve. Salut.
Ano bola, pono bola, benetinha de tan. Ano bola, pono bola, benetinha de tan. Ano bola, pono bola, benetinha de tan. Anani ceniza. Anani ceniza, pono la. Malen satinho com beleza. Balin satinho com be. Malen satinho com beleza.
On vient d'écouter un titre qui s'appelle Belesia, c'est aussi le nom de votre album. Alors, je ne vous connais pas très bien. Est-ce que c'est votre premier album ou en Amérique du Sud? Vous avez déjà une discographie importante. Racontez-moi un peu.
Bah, disons que j'ai fait des albums, mais pas de façon légitime, on peut dire. C'est-à-dire, on fait des albums nous-mêmes et des fois des covers. Où j'ai fait aussi un album de musique guinéenne et tout. Mais ça s'est jamais reproduit quelque part, ou c'était que pour nous, et peut-être pour vendre dans un concert.
Donc Belesia, en fait, c'est votre premier
c'est
vrai
mon
album,
premier album
officiel. Ouais. Alors, je suis très étonnée parce que j'ai vu votre parcours, donc né en Argentine, très bien. J'ai vu que vous avez passé du temps au Mexique. Et là, il y a cet album qui arrive, et je regardais les noms des musiciens. Ce sont que des gens qui sont passés dans cette émission. Balaké Sissoko, qui vous rejoint à la cora. Vincent Segal au violoncelle. Loyer Lich, qui joue du ribab, ce violon à une corde.
Oui, ce violon à une corde, un violon barbare.
Oui, tout à fait. Expliquez-moi comment ce jeune homme se retrouve catapulté à Paris avec tous ces musiciens qui sont déjà des musiciens ultra confirmés.
En fait, moi, je suis venu parce que mon frère, il a habité ici déjà. Je suis venu le rendre visite. Et moi, comme tous les voyageurs, j'ai arrivé avec 40 euros. Je suis arrivé ici et donc, du coup, je me suis mis à jouer dans la rue. Là, sur le pont Saint-Louis. Et comme c'est un peu le quartier de Vincent Segal, il est passé, j'étais en train de jouer guitare-voix amplifiée sur le pont Saint-Louis. Et puis il est passé, il s'est approché, il m'a demandé mon contact. Et après, il m'a invité à un concert, à répéter avec lui, etc. Et également, j'ai rencontré John Miyake, qui est un compositeur japonais, qui m'avait ramené après en tournée au Japon. Disons que j'ai trouvé le milieu de la musique très mûr ici, et de la musique du monde, une écoute de la part les gens ici pour les musiques d'ailleurs, disons. Et comme j'avais toutes ces compositions depuis longtemps, etc., et que bien sûr c'est quelque chose que même dans mon pays, c'est étrange, comme musique. Donc voilà, j'ai dit, bon, peut-être que c'est ici le lieu où faire mon album. Donc plus tard, des années plus tard, je suis revenu. Et avec une visa, etc., et avec l'ambition de faire cet album. Et tous les restes de musiciens, c'est vraiment des rencontres que j'ai fait comme ça, à travers des amis. Et voilà, ils sont tous intéressés par la musique, par les compositions, ils sont tous voulu participer.
Il est peinard pour mon départ. Il est bon pour mon départ. Il est peinard pour mon départ. Tendez, il est à la peine. Il est à la peine, il n'est pas. Il est à la peine. Bon, il n'est pas. Il est à la peine. Il est à la peine, il n'est pas.
Ignacio est né en 1992 en Argentine, donc c'est un tout jeune homme. Et à l'âge de 12 ans, il part vivre au Mexique. Et là, l'aventure peut commencer.
Bah, ma mère, elle allait chercher sa chance un peu, elle est architecte. Elle allait chercher sa chance à Playa del Carmen, qui était une ville qui était en train de grandir. Voilà, donc il y avait là aussi son neveu qui habitait là-bas, donc il nous logeait et tout.
Donc votre cousin.
Ouais, et du coup, voilà, on est arrivé là-bas pour tenter sa chance. Et moi, comme j'ai pas pu rentrer à l'école là-bas, je me baladais dans les roues comme ça jusqu'à trouver une communauté d'artistes des roues, plutôt, qui faisaient du cirque, de la capoeira, plein de choses. Et entre ces choses, il y avait un petit groupe qui faisait la musique guinéenne.
Guinéenne.
Ouais, guinéenne traditionnelle, genre dundun, sakman, kenkeni, djembe. Ces formats instrumentaux. Je me suis mis avec eux. Depuis que j'ai entendu dans un jardin qu'ils étaient en train de répéter, moi je me suis collé à eux jusqu'à gagner ma place dans leur groupe.
Alors, vous faites de la musique traditionnelle guinéenne au Mexique. Vous êtes argentin, vous avez entre 12 et 15 ans. Vous arrivez quoi? Avec votre voix, avec une guitare? Vous jouez d'autres instruments?
J'ai joué déjà la guitare un peu, j'ai chanté un peu, j'ai joué la percussion dans l'Argentine, la murga. J'avais joué la murga un peu. C'est des musiques, des percussions, des carnavals de l'Argentine. Mais vraiment, ça, c'était ma initiation à la musique. Ça m'a tout donné, en fait, la percussion guinéenne. J'étais passionné à ce moment-là. J'avais 12-13 ans, j'ai fait ce que je chantais des tambours. Tum, 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 tam, 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 balalala. Toute la journée, j'étais passionné. Et là, à cette époque, il n'y avait pas l'Internet, enfin, il n'y avait pas YouTube, tout ça. Donc, on apprenait par les albums qui arrivaient, notamment des albums produits ici en France. Des musiques de djembe fola, genre Mamadi Keita, Famudo Konate. Et juste tout simplement, on écoutait, on essayait de diviser qu'est-ce qu'il faisait chaque instrument. Et voilà, et c'était ça la façon d'apprendre. Il n'y avait pas des professeurs ou des Africains qui venaient apprendre ça.
Ignacio, est-ce que ça vous a donné envie d'aller un peu plus loin dans la recherche des origines afro dans la musique sud-américaine?
Quand j'avais 19 ou 18 ans, je fais un deuxième voyage encore au Mexique. Cette fois-ci, quand j'avais 12 ans, j'ai resté 2 ans. Et après, je suis retourné en Argentine. Et après, 4 ans plus tard, je suis retourné au Mexique. Et j'ai fait encore un voyage. Et c'était justement ça. Là, c'était vraiment un voyage ville par ville, là où on ne connaissait personne dans les prochaines villes. Mais on y allait quand même. C'était avec ma partenaire qui chantait tous les deux guitare-voix. Mais j'avais un balafon. Donc avec cette balafon, j'ai fait beaucoup d'échanges dans les communautés afro-américaines. C'est là que j'ai commencé à apprendre la musique guinéenne à des communautés afro-descendantes comme des Garifuna au Nicaragua ou les gens de la côte pacifique de Colombie, par exemple.
Alors, Garifuna, c'est la résultante de ce qu'on appelait les Negmarons, donc les esclaves qui se carapataient avec les Indiens Arawak et les Indiens Caribes. Ouais. Voilà, ce sont des métis. Ça vous a donné envie de savoir qui étaient vos ancêtres, Ignacio ?
En fait, c'était...
Vous êtes typé, mais on ne sait pas trop d'où, en fait.
Ouais, c'est ça.
Vous êtes un peu universel, hein, comme garçon.
Non, en fait, c'était le fait d'apprendre la musique guinéenne à des afro-descendants de l'Amérique latine, parce que moi, J'ai toujours enseigné la musique guinéenne en Argentine, par exemple, ou même en Mexique, ou à Costa Rica aussi un petit peu, mais je n'avais pas enseigné de la musique guinéenne dans un centre de communauté afro-américaine. Donc je me suis rendu compte de la facilité avec laquelle eux, ils apprenaient la musique guinéenne. Et moi, j'avais un peu la sensation de que je les rappelais la musique de ses ancêtres plutôt que je les enseignais. Ça m'a fait des questions existentielle à moi-même, parce que le discours de l'Argentine, c'est qu'il n'y a pas des afro-descendants en Argentine. Il y a des discours... L'histoire, on l'apprend qu'on est des migrants des bateaux de l'Europe, des points. D'ailleurs, il y a un morceau qui... Fautinier pas, c'est un morceau de le disque. Il y a des candombe, justement, que c'est un peu les racines de le tango. C'est ce qui se joue avec 3 tambours et qui semble un peu les tambours savards du Sénégal.
Music du monde sur RFI.
Ici, na tuma na tuma tenas talilepa, na tuma na tuma teimpa. Ici, na tuma na tuma tenas talilepa, na tuma na tuma teimpa. Et j'en ai son la tijanita. Bon malo, mi tinanito mala. Beina de son la tijanita.
Ignacio Maria Gomez, avec cette quête du beau qui semble entretenir votre travail, la quête des origines aussi et du paradis perdu peut-être, je me disais que vous deviez vous sentir mal dans nos sociétés de consommation qui détruisent surtout le vivant.
Ouais. Bien sûr, c'était une grande déception. Depuis petit, pour moi, le monde, il est... Peut-être grâce à cette mémoire d'un lieu beaucoup plus harmonieux, d'un lieu social et dans lequel existait avec la nature en harmonie, ce monde, je l'appelle Bélessia. Et peut-être grâce à ces mémoires, depuis petit, je trouve le monde est complètement fou.
Et à quoi ça ressemblerait une vision idéale du monde, d'après vous ?
Moi, j'ai toujours, par exemple, une réflexion avec les sangliers, qui sont des êtres qui, tels comme ils sont nés, c'est-à-dire avec sa peau, avec ses outils, on va dire, que Dieu l'a donné. Ils sont tout prêts pour vivre, pour faire sa vie, je sais pas, bon, se reproduire. Bah, on ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur d'un sanglier. Mais moi, j'ai toujours cette réflexion, comme on a autant besoin d'autant des appareils, des matières au-delà de nous, de ce qu'on ramène, de ce qu'on a quand on est né, pour survivre. J'ai toujours une attirance pour les peuples qui sont encore très liés à la nature et qui sont encore, et qui même sont même pas les corps, puis les mêmes adaptés pour ce lieu, comme par exemple les Yanomamis en Amazonie, qui sont très peu de maladies, sont très peu, parce que il y a toute cette information du lieu, il sait dans son corps en matière d'anticorps ou des virus, etc. Et moi, je pense que ce monde, ben, justement, idéal, c'est un monde dans lequel on n'est pas des extraterrestres dans la Terre. Non, on a fait juste que marcher dans un jardin qui se cultive tout seul et qui en a juste à profiter de ce lieu. Ce que cherche Ignacio Maria Gomez tout au long de son travail, ce sont les traces du passage de l'Afrique en Amérique latine. Question, est-ce qu'il a déjà posé le pied en Afrique ? Je suis allé à Maroc, et de Maroc, je suis descendu ville par ville jusqu'en Guinée. Justement, j'ai traversé la Mauritanie et tout ça. Je ne parlais pas français à l'époque, donc j'étais tout seul. Donc, mais bon, il y a la musique qui fait toujours le nexe entre...
Ça fait le lien. Vous êtes parti avec votre guitare sur le dos ?
Oui, en guitare, il y a un bombo legüero, qui c'est un instrument de percussion, qui c'est notre peu d'héritage instrumental comme objet qui nous reste à l'Argentine, de l'Afrique.
Vous étiez où au Maroc ?
Marrakech, j'étais à Rabat, Casablanca.
Est-ce que vous avez croisé les maîtres Gnawa, qui se rapprochent aussi d'une musique thérapeutique, puisqu'à l'origine, c'est leur job ?
Oui, non, j'ai pas eu la chance. C'était pas le bon moment. J'ai trouvé Keloy Erlich, j'ai trouvé qui tuait les Gnawa.
C'est vrai que Loy Erlich a travaillé sur votre disque et qu'il a été un temps le directeur artistique du festival Gnawa et Musique du Monde des Sawira. Vous dites que la musique vous a servi de langage, vous ne parliez pas français. Comment ça se passait ? Vous jouiez, les gens vous invitaient chez eux, il y avait ce sens de l'hospitalité.
Tel comme je suis arrivé ici en France, à l'époque sans sous, bah, c'était pareil là en Afrique. Donc il fallait que les gens y m'aident pour moi continuer à traverser, faire ma mission d'y aller jusqu'en Guinée. Ma idée, c'était, mon moteur, c'était ramener les bombos legüero et la chacarera, que c'est la musique de la campagne de ma région, que c'est un peu une musique afro-descendante, enfin, qui a un élément africain dans la musique. Donc, les ramener au retour des lieux où il était venu. C'était une idée romantique, mais qui servait de moteur pour traverser.
Et vous avez gardé des traces sonores de ce voyage
Oui, j'ai quelques vidéos. Quelques vidéos des Guinéens ou des Sénégalais qui chantent la chacarera en espagnol ou qui jouent des petits échanges que j'ai pu faire. Oui.
Thank you.
C'était le titre Omenisho avec la cora de Balaké Sissoko et une voix féminoïde, celle d'Ignacio Maria Gomez.
Alors Omenisho, c'est...
Il s'agit de femmes.
Ouais, c'est des femmes puissantes. C'est cette espèce de mantra qui émergeait dans une période dans laquelle j'étais beaucoup avec des femmes. Genre en famille avec des femmes, vraiment, c'était un choc culturel, c'était un groupe, un collectif artistique qui s'était fait par hasard en Colombie, fait par plein de gens de l'Amérique latine, des différentes parties de l'Amérique latine, qui sont surtout des voyageurs, mais qui se sont tous trouvés dans une maison à Cali, en Colombie, et qui ont commencé tous à vivre ensemble et à partager nos économies, à partager nos savoirs aussi. Chacun faisait une art différente, soit les cirques, soit la musique, soit la danse, soit le théâtre. Et bon, on commençait à faire des événements dans cette maison et ailleurs aussi, où on se présentait tous, etc. Bon, cette groupe, ça m'a beaucoup marqué. Si vous voulez, c'est une espèce d'utopie à vivre aussi, dans cette ambiance très familiale et très riche. Et donc là, avec toutes ces femmes qu'il y avait dans cette groupe, on était vraiment une grande famille d'amour, disons. Et j'ai appris beaucoup de le féminin, j'ai appris beaucoup de femmes, j'ai beaucoup appris à être entre les femmes, à être une femme de plus. Et cette mantra, ça émerge de célébrer en fait la féminité, de célébrer ma féminité, parce que c'est un autre monde. J'aimerais refaire justement cette famille, parce que tout seul, on peut pas défendre, justement, moi je peux pas défendre Vélésia ou quoi que ce soit, la utopie, si je suis pas en groupe, si on n'est pas un groupe. J'aimerais qu'on se retrouve, le choc culturel ou dans le voyage aussi, dans l'inspiration encore, parce que ces 3 années à Paris, ils m'ont enlevé un peu l'inspiration. Je voyage même ici en Europe, tout, mais bon, c'est pas voyager comme ce qui a fait cet album. En fait, tous ces morceaux, c'était en plein voyage, de ne pas justement des fois avoir des visas, d'être en face du monde, pas un état qui t'accueille, pas des... Non, c'est toi et la planète. Et ces sentiments, c'est magnifique.
Music du monde sur RFI.
Il était une fois une sorcière qui vivait en marge de la société, comme toutes les sorcières, et dont la voix avait le pouvoir de reconstituer un être humain à partir de ses os. Il était une fois la Chica de Belleville, une artiste franco-vénézuélienne qui décida un jour de retrouver sa nature sauvage, celle de la femme, son intuition, sa puissance, et de rendre hommage à Pablo, le jeune frère mort lors d'un accident au Mexique l'été dernier. Il était une fois la Loba, la Louve, entretien avec un fauve. Une fauve.
Soy la que manda, soy la que sabe, anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, ¿no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos cuando siembro profundo. I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba. Deja la maga ver, deja la magia hacer. Despierta, despierta, libera tu rabia. Recuerda la esencia, ver, recuerda por qué. Siglos y siglos y siglos, suena la voz del silencio. Ya no más. I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba. Crece la rabia, crece la rabia. Transformo la furia, mi rabia es mi fuerza, mi rabia es mi fuerza. Puedo curar, curandera, me dicen, recojo tu hueso. Curandera, me dicen, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel.
Vuelve el soplo, vuelve el soplo.
Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida.
Bonsoir la chica.
Salut.
Ça va?
Ouais.
Un peu?
Ouais.
Bon. Vous arrivez du Mexique, donc vous êtes en plein décalage horaire.
Absolument.
Vous voulez un petit déjeuner?
Plaisir. Je viens de la papaye.
De la papaye. On n'en a pas beaucoup à RFI en ce moment, mais la prochaine fois, je ferai faire livrer.
S'il vous plaît.
Si, mais il y a bien sûr. Vous êtes invité parce que vous sortez un nouvel album, un EP. Enfin non, un album. À partir de 7 titres, on peut considérer quand même que c'est un disque. Hein ?
Moi, je considère que c'est un mini-album.
Un mini-album. C'est un album qui est entièrement dédié à votre frère, à Pablo.
Oui.
Qui était votre jeune frère, qui est mort cet été, enfin l'été 2020 au Mexique. Un Pablo s'est précipité dans un trou d'eau bouillante, c'est ça, dans
c'est
la nature,
ça.
Pour sauver son chien.
C'est ça.
Le chien n'a pas été sauvé, Pablo non plus.
Non, c'est des choses qui arrivent. Je crois qu'il y avait, qu'il y a des cycles qui sont plus courts que d'autres. Je crois qu'il y a un changement de dimension qui était nécessaire. Je crois qu'ils se devaient quelque chose l'un à l'autre et ça s'est résolu de cette manière-là. Donc c'était très violent, c'est toujours... C'est toujours un choc, on n'est absolument pas préparé dans notre société avec cette culture, on n'est pas préparé à ce changement de dimension. Donc c'est une expérience extrêmement violente, mais aussi très puissante, qui, moi, m'a amené énormément d'amour, en fait, et de compréhension sur le monde et une sorte d'illumination aussi.
Cet album est composé de 7 titres. J'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec les 5 moments émotionnels que traverse un humain lorsqu'on lui apprend qu'il va mourir. C'était le docteur suisse-américaine Elisabeth Kubler-Ross qui avait parlé de ces 5 moments. Le premier moment, c'est le déni. Le deuxième moment, c'est la colère. Le troisième, c'est le chantage. Le quatrième, c'est la dépression. Et le dernier, c'est l'acceptation.
Ouais.
Est-ce que dans cet album, on suit un petit peu ce déroulé ? Est-ce qu'il y a un moment où on accepte ? Dans le clip que vous avez fait sur la Loba, vous apparaissez sanguinolente sur un piano, qui prend aussi un peu de couleur rouge. Mais à la fin du clip, vous partez dans la lumière. Est-ce que ce morceau, est-ce que cette vidéo est un peu, non pas un résumé, mais enfin l'expression de ce que veut dire votre album, d'où vous êtes parti et là où vous êtes arrivé, c'est-à-dire d'accepter quand même le départ de votre frère ?
Absolument. Dans cet album, on comprend qu'il y a plusieurs étapes. C'est un peu ma première étape du deuil. Je pense qu'il en reste beaucoup. J'ai pas fini de traverser cette épreuve. Je passe par plusieurs états émotionnels. Ça va effectivement. Ça passe par la rage, ça passe par le désespoir, la tristesse infinie. Il y a aussi beaucoup d'amour, il y a aussi beaucoup de lumière dans tout ça. Dans le clip de La Loba, je porte sur moi la souffrance. Je porte sur moi le sang. Des épreuves passées, c'est aussi c'est un morceau féministe, c'est un morceau d'énergie que j'ai envie de chanter aux femmes qui passent par des épreuves difficiles.
Vous avez lu ce livre, Femmes qui courent avec les loups ?
Bien sûr, c'est d'ailleurs la première fois que j'ai lu la légende de la Loba écrite. C'était une légende que je connaissais à l'oral et c'est la première fois que je l'ai lue, écrite, relatée par Clarissa Pinkola Estes. Et j'étais très contente que ça existe dans un livre, parce qu'en fait, cette légende, moi, elle m'a beaucoup inspirée et elle m'a donné énormément de force. Le fait qu'on ait chacune à l'intérieur de nous-mêmes cette femme louve, cette connexion à notre nature sauvage, cette puissance qui nous permet de renaître après une épreuve difficile où on a l'impression qu'on est en train de mourir, on n'est plus qu'un tas d'os. Et en fait... La Loba, la louve, cette sorcière, grâce à son chant magique, elle redonne vie à ce corps éteint.
Comme les momies, c'est-à-dire que les muscles se reforment.
Tout se reforme, le tissu musculaire, la peau revient et hop, le corps se rallume. On va toutes vivre des moments de vie où on va s'éteindre, on va avoir l'impression qu'on est en train de mourir, on va toujours revivre, on va toujours retourner vers la lumière. Et c'est pour ça que le clip de La Loba... Il raconte ça et j'utilise le sang d'une manière symbolique, bien sûr, mais aussi parce que le sang, pour moi, ça veut dire la vie, ça veut dire le feu. La couleur rouge, c'est l'amour pour moi et la passion.
La colère, l'orgueil. Mais la vie, ça transporte l'oxygène aussi, c'est vrai.
Exactement. Et il y a une renaissance certaine à la fin de ce clip qui est importante. Et puis, j'attache aussi... beaucoup d'importance au fait de porter du sang féminin sur mon corps et sur mon visage parce que je commence à en avoir marre des tabous autour du sang.
Vous dire des menstruations ?
Des menstruations, oui, et puis le sang de la naissance aussi.
Le sang n'est pas considéré comme quelque chose de très noble, c'est
non,
sale.
Non, jamais, c'est toujours sale. Ce sang qui est... on le transforme de manière un peu magique, comme ça, dans les pubs, où on voit les pubs pour les serviettes hygiéniques, où tout d'un coup, ce sang devient bleu. Et moi, je me suis toujours dit, ça fait des années que je me dis, mais si jamais, dans tous ces films de batailles sanglantes, tous ces soldats se mettaient à saigner en bleu, est-ce que ce serait pas un peu ridicule ? C'est fou. Pourquoi ça fait peur ? Ça fait partie de notre vie et on devrait être beaucoup plus préparé à ça et en parler beaucoup plus. Il n'y a rien de dramatique là-dedans, en fait. Il y a même quelque chose de très puissant et on devrait être fiers et embrasser cette puissance.
La Chica est notre invitée, titre de ce nouvel EP qui s'intitule La Loba. On va écouter le titre Agua.
Del cielo cae agua, lluvia poderosa, lávame la mente con agua fría. Y saca la pena de mi memoria, de mi memoria.
Agua, cet extrait du tout nouvel album de La Chica qui est notre invitée aujourd'hui. Alors ce qu'il y a bien avec l'eau, c'est qu'elle emporte tout sur son passage.
Ah oui, cette chanson elle est importante pour moi. C'est mon moment de sanation en fait. C'est le moment où je vais m'allonger dans cette rivière et je vais lui confier en fait la tâche d'emporter avec elle dans son courant toutes mes peines et mes douleurs et ma tristesse et toutes ces choses lourdes que je porte sur moi que je ne veux plus porter. Et ça marche.
On a parlé de votre frère en début d'émission, parmi les grosses douleurs de l'année 2020 qui concernent votre propre vie. Mais je crois qu'il y a deux tontons aussi et trois amis. Donc vous avez eu une année difficile, une année de perte. Est-ce que c'est aussi pour cette raison que vous avez fait un album très piano-voix, où il n'y a vraiment pas beaucoup de fioritures, pas beaucoup d'ornementation
Et oui, quand on vit une expérience aussi forte et aussi puissante que la mort, on est reconnecté, malgré nous, d'une manière très forte, aux émotions les plus primaires. Et en fait, on reste dans cet état-là pendant un moment. Et quand on est dans cet état-là, on n'a plus envie de se cacher, en fait, derrière des couches et des couches d'instruments, d'arrangements, de masques. En fait, on a envie, on est tellement connecté à l'essence des choses que ce qu'on a envie de transmettre, c'est ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est ça qui compte, c'est cette essence. Sans détail et d'une manière peut-être un peu brute et un peu crue, mais c'est ça que moi j'avais envie de transformer en musique, c'est ça que j'avais envie de montrer, de partager aux gens. Et la manière pour moi de me défaire de toutes ces chaussures superflues, c'est de revenir à la base. Et la base, c'est le piano. C'est juste le piano avec ma voix. Et le piano, c'est un instrument magique. Pour moi, c'est un instrument qui est complet, avec lequel je peux construire un orchestre, en fait. C'est un instrument qui est rythmique, qui est mélodique, qui est harmonique. Je peux taper dessus si je veux aussi. Et ça m'a fait un bien fou. Et le fait de me limiter à l'instrument du piano, ça m'a donné une liberté totale.
Vous êtes pianiste classique de formation, vous avez fait un peu de violon aussi,
ouais,
de mémoire. Ça. Parmi vos icônes, il y a Claude Debussy, qui est reconnu par les plus grands musiciens du XXe siècle comme étant une référence d'une forme de renaissance. Je crois que c'est un des musiciens qui a le plus écrit pour le piano avec Gabriel Fauré. Qu'est-ce que vous aimez chez lui que, éventuellement, vous lui auriez chippé ?
J'aime son état d'esprit. Je crois que j'aime son état d'esprit sur la musique. J'ai beaucoup lu à son sujet. C'était pas du tout un bon élève. Il faisait pas du tout ce qu'il fallait. Il a vraiment fait ce qu'il sentait toute sa vie. Je crois que je suis très réceptive à cette manière de faire. Quand j'entends sa musique ou quand je joue ses pièces, j'ai l'impression d'embrasser un vieil ami. J'ai l'impression d'embrasser quelqu'un qui m'est absolument familier. Donc toutes ces harmonies et ces couleurs chez lui, j'ai envie de les chanter à ma manière, mais je les reprends, forcément je m'inspire de lui.
Il y a aussi un autre artiste canadien, c'est Chilly Gonzalez, qui avait sorti 3 albums, les séries...
Piano Solo.
Les Piano Solo. Mmh. Et quand j'ai écouté votre album, je pensais aussi à lui. Je trouve que vous êtes aussi déjanté que ce monsieur.
Ah bah ça me fait vraiment très plaisir.
Ah bah voilà.
Ah bah je suis très très fan de lui, et la première fois que j'ai entendu son album Piano Solo, le tout premier, et que j'ai entendu ce son de piano droit enregistré à la maison avec ses charentaises, je me suis retrouvée là-dedans aussi. C'est le son de piano que j'aime. Moi, j'aime pas les sons de piano à queue qui résonnent dans tous les sens. J'aime ce son étouffé, doux, moelleux, qui me donne l'impression de plonger à l'intérieur de moi-même. Voilà. Donc, je suis super fan de Chilly Gonzalez pour l'ensemble de son œuvre, pour sa folie, mais aussi pour ça.
La Chica est notre invitée. Le titre qu'on écoute maintenant, c'est Drink. C'est extrait du tout nouvel album qui s'appelle La Loba Drink, qui existait déjà sur la cumbia, mais une autre version pour boire.
I was down when I woke up. He was there. I could touch his face. I was feeling so close his presence, but he faded away in my memory. Drink your memory, swallow my wish. I wanna be drunk till tomorrow. Drink your memory, swallow my wish. I wanna be drunk till tomorrow. Drink your memory, swallow my wish. I wanna be drunk till tomorrow. Drink your memory. I wanna be drunk. I have no brain, saturated with smoke and despair. I would rather talk with the essence. I feel a pillow. I don't want to dream again. I'm his ghost.
Drink, c'est un morceau qui fait rêver parce qu'on a l'impression qu'on peut être saoul, à rouler par terre, mais pas tout à fait. J'ai dit une bêtise juste avant le titre, j'ai dit que ce morceau existait sur la cumbia. Alors évidemment, ça n'existe pas sur une valse ou un tango, ça existe sur cambio. Voilà, l'affaire est réglée. Oui, bon bah voilà, on vieillit, pas toujours très bien, autant pour moi. C'est ma tournée. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on boit sur un morceau pareil? Je ne suis pas sûre qu'on boive la même chose que sur l'album cambio que vous aviez sorti en 2019, la Chica.
Sur l'album de La Loba, qu'est-ce qu'on boit?
Ouais. Sur ce morceau.
Moi, personnellement, je bois du mezcal.
Oui.
Ouais, moi, je bois du mezcal. C'est mon alcool préféré avec le rhum vieux. Le mezcal, cet alcool d'agave qui fait référence pour moi au désert, au cactus, à des expériences que j'ai vécues. C'est un nectar des dieux, c'est un nectar magique. Moi, j'ai jamais de gueule de bois avec le mezcal. Parce que je pense que je le bois avec le bon état d'esprit. J'espère que ça va pas me porter préjudice, tout ça. Mais le mezcal, pour moi, c'est vraiment magique. C'est un alcool qui me soigne, en fait. Alors, c'est sûr que je vais pas en boire des litres, hein, parce qu'effectivement, ça devient très vite dangereux. C'est du feu. Ça me réchauffe l'intérieur et ça me met bien mentalement.
J'étais en train de penser à votre carrière et à votre famille, à vos origines. Vous êtes née en France, à Paris. En tout cas, c'est Belleville, c'est votre quartier. Mais je sais que la grand-mère est vénézuélienne. Elle était anthropologue et qu'elle a beaucoup travaillé sur les sociétés amérindiennes. Donc, c'est peut-être aussi par là que ce goût que vous avez pour peut-être des lectures chamaniques. Enfin, c'est peut-être de là que ça vient. Parce que quand on écoute votre musique, quand on vous regarde, votre manière de vous habiller, de présenter les choses, on a vraiment l'impression que vous avez vécu avec un guide qui vous aurait pris comme élève, vous aurait enseigné 2 ou 3 choses. Est-ce que vous avez déjà vécu, je pense que la réponse est oui, des états de conscience modifiés? Est-ce que la musique est un véhicule pour vous?
Bien sûr. J'ai grandi dans la magie et dans les rituels parce que, de par ma mère vénézuélienne. Après, c'est quelque chose qui existe beaucoup en France aussi. On en parle moins, mais il y a beaucoup de magie en France. Il y a beaucoup de rebouteux, voilà, des guérisseurs. Après, c'est sûr qu'au Venezuela, c'est quelque chose qui est un peu plus visible, peut-être un peu plus accessible. C'est bien sûr quelque chose dont j'ai hérité de mes grands-parents, d'une part. Après, il y a aussi une autre part de rituels de Santeria, le vaudou caribéen, qui est l'héritage yoruba, en fait, africain, qui est arrivé avec l'esclavage. Tout ça mélangé à mon expérience personnelle aussi, il y a une grande part d'intuition aussi dans les choses que je fais. Et ma manière à moi d'aller retrouver cet état si particulier d'altération de la conscience, c'est de le faire en grande partie à travers la musique, par la musique, avec la musique, dans la musique. Les sons m'amènent à un état de conscience différent.
Quand vous étiez petite, quelqu'un de votre famille vous avait donné... parce que vous étiez ce qu'on appelle un garçon manqué, qui est une expression que je prends avec des pincettes, parce que garçon manqué, fille réussie, voilà. Il vous appelait la chica. Les principes féminins masculins cohabitent très bien chez vous. Hein. Le yin et le yang sont à égalité. Ça y est, vous avez fait le tour.
Ouais. Il m'a fallu, pareil, ça a eu une évolution. J'ai été très masculine pendant très longtemps. Je pense que je cherchais à m'intégrer dans ce milieu masculin, peut-être en me faisant passer pour un homme, comme si les hommes allaient me prendre pour l'une des leurs. Ou l'un des leurs, voilà, ce qui est une erreur.
Alors ça n'a pas marché.
Alors bien évidemment, ça n'a pas marché parce que...
Et bang, threesome sisters. La punition.
Mais non. J'ai étudié mon non-genre aussi pendant un moment. Et effectivement, je suis une femme, j'embrasse ma féminité et j'embrasse ma masculinité. Parce que je pense que pour être une fille dans cette société actuelle, il faut les deux. Il faut cette dualité acceptée, assumée. Parce que être une femme, c'est être fragile et être sensible et être douce. Mais c'est aussi être guerrière et c'est avoir tous ces... caractéristiques qu'on attribue aux hommes, en fait, et qui pour moi font partie de la féminité aussi.
Est-ce qu'il y a des mythes, on a parlé de la loba, bien sûr, est-ce qu'il y a d'autres représentations qui sont importantes pour vous dans cette partie du monde d'Amérique centrale ?
C'est une terre qui est riche en intensité et je me retrouve au Mexique parce que c'est vraiment un pays magique, mais c'est aussi un pays qui me rappelle le Venezuela, qui est le pays où je ne peux plus aller pour l'instant parce que c'est vraiment très compliqué. Et c'est vrai que ce Mexique, pour moi, est une terre d'adoption depuis quelques années. C'est un pays qui m'a amené énormément d'énergie, dans lequel je me ressource à chaque fois. Et j'ai fait des rencontres absolument incroyables. Et j'ai fait des rencontres de femmes puissantes, effectivement, et qui m'ont rappelé finalement les femmes de ma famille au Venezuela, qui sont des femmes qui n'ont jamais suivi le cursus normal, normé de la société machiste vénézuélienne, mais qui se sont plutôt épanouies dans leur féminité et dans toute leur puissance. J'ai ces modèles de femmes qui sont des rôles importants, qui ont eu un des rôles importants dans ma vie. Et tout ça, ça résonne là-bas très fort.
Votre album La Loba démarre avec un morceau qui s'appelle Tres, qui veut dire trois. Qu'est-ce que ça représente pour vous, à part les pyramides du Mexique ?
J'adore le symbole de la pyramide, il est important pour moi. Je l'utilise d'ailleurs sur la pochette aussi de l'album. Mais dans ce cas-là, Tres, c'est un morceau pour le triangle mon frère, ma sœur et moi. Et c'est un morceau où je m'adresse directement à mon frère, où je lui pose des questions, je lui demande clairement des éléments de réponse pour qu'on sache maintenant, dans cette nouvelle configuration, maintenant qu'il y a eu changement de dimension, comment on fait, comment ça marche. J'ai pas encore les clés en main. J'ai besoin de savoir comment on va pouvoir semer les graines de notre futur avec ma sœur. Comment on va pouvoir grandir, nous, à partir de ce nouvel état.
Quand vous faites de la musique, vous pensez faire de la musique pour les autres ou vous la faites pour vous ?
D'une manière intuitive, j'ai besoin de sortir toutes ces choses qui sont à l'intérieur de moi et les transformer. Ça, c'est la première étape. J'ai besoin de faire cette magie pour moi. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'avoir besoin de transmettre et de partager avec les gens. Parce que je ne fais pas de la musique pour moi-même, je la fais pour vivre un instant d'harmonie avec les gens.
Merci, la chica, chiquita, chiquitita. Ça, on ne me l'avait pas fait.
Tu parles.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt. No.
los astros no mienten, te siento bien alto, cuéntanos qué ves, qué sientes, cuál es el secreto.
Santa energía, somos la energía, santa energía.
Funcionamos para siempre, trascendemos el amor.
Oh. Semillas, semillas, hermanas, sembramos hoy.
Oh.
Mirando la muerte a los ojos, sembramos. Nos toca elevar el nivel de conciencia.
La Chica et Ignacio María Gómez étaient nos invités aujourd'hui dans les Musiques du Monde. Pour avoir tous les détails et les coordonnées de ces artistes, vous allez sur la page d'accueil de Musiques du Monde, sur lemusique.rfi.fr. Il y a des photos, il y a des vidéos, il y a du texte, il y a un podcast. Au revoir, à demain.
Toca mi tercer ojo con tu mente. Toca mi tercer ojo con tu mente. Nos bañamos con tu esencia. Huesos y caracoles con yemaya.
Oh. Semillas, semillas, hermanas, sembramos hoy.
L'épopée des musiques noires.
Il y a 100 ans, le saxophoniste Coleman Hawkins a